Livre 1. 1. Exemple que j'ai reçu de mon grand-père Vérus, la bonté et la douceur, qui ne connaît point la colère. 2. Du père qui m'a donné la vie, la modestie et la virilité, du moins si je m'en rapporte à la réputation qu'il a laissée et aux souvenirs personnels qui m'en restent. 3. De ma mère, la pitié et la générosité. L'habitude de s'abstenir non pas seulement de faire le mal, mais même d'en concevoir jamais la pensée, et aussi la simplicité de vie, si loin du faste ordinaire des gens opulents. 4. À mon bisaïeul, je suis redevable de n'avoir point fréquenté les écoles publiques, d'avoir profité dans ma famille des leçons d'excellents maîtres, et d'avoir appris par moi-même que, pour l'éducation des enfants, il ne faut ménager aucune dépense. 5. À mon gouverneur, de n'avoir jamais été de la faction des verts ou des bleus, ni de celle des petits boucliers ou des grands boucliers. Il m'a montré aussi à endurer la fatigue, à restreindre mes besoins, à faire beaucoup par moi-même, à diminuer le nombre des affaires et à n'accueillir que très difficilement les dénonciations. 6. À Diogène, j'ai dû de ne pas m'appliquer à des riens, de ne jamais croire à tout ce que les sorciers et les charlatans débitent de leurs incantations et des conjurations de démons, ni à tant d'autres inventions aussi fausses. Je lui ai dû encore de ne pas me plaire à élever des cailles de combat et de ne point me passionner pour ses puérilités, de savoir supporter la franchise de ceux qui me parlent, d'avoir contracté le goût de la philosophie, d'avoir suivi d'abord les leçons de Bacchus, puis ensuite celles de Tandazis et de Marcien, d'avoir composé des dialogues dès mon enfance et de m'être fait une joie du grabat, du simple cuir et de tous les ustensiles dont se compose la discipline des philosophes grecs. 7. À Rusticus, j'ai dû de m'apercevoir que j'avais à redresser et à surveiller mon humeur, de ne point me laisser aller aux engouements de la sophistique, de ne point écrire sur les sciences spéculatives, de ne pas déclamer de petits sermons vaniteux, de ne point chercher à frapper les imaginations en m'affichant pour un homme plein d'activité ou de bienfaisance, de me défendre de toute rhétorique, de toute poésie et de toute affectation dans le style. Je lui dois encore de n'avoir pas la sottise de me promener en robe traînante à la maison et de me défendre de ses molles habitudes, d'écrire sans aucune prétention ma correspondance dans le genre de la lettre qu'il écrivit lui-même de Sinuès à ma mère. Il m'a montré aussi à être toujours prêt à l'appeler ou à accueillir ceux qui m'avaient chagriné ou négligé, dès le moment qu'ils étaient eux-mêmes disposés à revenir, à toujours apporter grande attention à mes lectures, et à ne pas me contenter de comprendre à demi ce que je lisais, à ne pas acquiescer trop vite aux propositions qui m'étaient faites. Enfin, je lui dois d'avoir connu les commentaires d'Épictète qu'il me prêta de sa propre bibliothèque. 8. D'Apollonius, j'ai appris à avoir l'esprit libre et à être ferme sans hésitation, à ne regarder jamais qu'à la raison, sans en dévier un seul instant, à conserver toujours une parfaite égalité d'âme contre les douleurs les plus vives, la perte d'un enfant par exemple ou les longues maladies. J'ai vu clairement en lui, par un exemple vivant, qu'une même personne peut être tout ensemble pleine de résolution et de facilité, et qu'on peut n'être point rude en enseignant. Il m'a donné le spectacle éclatant d'un homme qui regarde, comme la moindre de ses qualités, de savoir transmettre la science à autrui, avec une rare expérience et tout en courant. C'est lui encore qui m'a appris l'art de recevoir de la main de mes amis de prétendus services, sans en être diminué, et sans y paraître insensible quand je ne croyais pas devoir les accepter. 9. De Sextus, j'ai appris ce que c'est que la bienveillance. Une famille paternellement gouvernée et le vrai sens du précepte « vivre selon la nature », la gravité sans prétention, la sollicitude qui devine les besoins de nos amis, la patience à supporter les fâcheux et leurs propos irréfléchis, la faculté de s'entendre si bien avec tout le monde que son simple commerce semblait plus agréable que ne peut l'être aucune flatterie et que ceux qui l'entretenaient n'avaient jamais plus de respect pour lui que dans ses rencontres, l'habileté à saisir, à trouver, chemin faisant, et à classer les préceptes nécessaires à la pratique de la vie, le soin de ne jamais montrer d'emportement ni aucune autre passion excessive, le talent d'être à la fois le plus impassible et le plus affectueux des hommes, le plaisir à dire du bien des gens mais sans bruit, enfin, une instruction immense, sans ostentation. 10. Par l'exemple d'Alexandre le Grammairien, j'ai appris à ne jamais choquer les gens, à ne les point heurter par une brusquerie blessante pour un barbarisme qu'ils auraient commis, pour une tournure fautive ou une prononciation vicieuse qui leur serait échappée, mais à m'arranger adroitement dans la conversation pour que le mot qui aurait dû être choisi d'abord reparût, par manière de réponse ou de confirmation, en donnant mon avis sur la chose même sans m'arrêter du tout à l'expression malheureuse ou en prenant soigneusement tel autre détour pour dissimuler l'allusion. 11. De Fronton, j'ai pu apprendre tout ce qu'un tyran peut ressentir de jalousie et avoir de duplicité et de fourberie, et combien ceux que nous appelons praticiens ont, pour la plupart, peu de bonté et d'affection dans le cœur. 12. D'Alexandre le platonicien, j'ai appris à ne pas dire aux gens à tout propos et sans nécessité, quand je leur parle ou que je leur réponds par lettre, « je n'ai pas le temps », et à ne pas décliner constamment par cette facile excuse mes devoirs divers envers ceux qui vivent avec moi, en alléguant les affaires qui me pressent. 13. De Catulus, j'ai appris à ne jamais négliger les plaintes d'un ami, même quand il se plaint sans motif, mais à tout essayer pour l'adoucir et pour rétablir l'ancienne inimité. Il m'a appris aussi à louer mes maîtres de tout cœur, comme avait coutume de le faire à ceux qu'il rapportait, Domitius et Athénodote, et à ressentir pour mes enfants le dévouement le plus sincère. 14. De mon frère Sévérus, j'ai appris à aimer la famille, et à aimer le vrai, à aimer le juste. Grâce à lui, j'ai apprécié Thraseas, Edvidus, Caton, Dion et Brutus. J'ai pu me faire l'idée de ce que serait un état où régnerait une égalité complète des lois, avec l'égalité des citoyens jouissant de droits égaux, et l'idée d'une royauté qui respecterait par-dessus tout la liberté des sujets. C'est lui qui m'a appris à vouer à la philosophie un culte constant et inaltérable, à être bienfaisant, à donner sans me lasser, à garder toujours bonne espérance, à me confier à l'affection de mes amis, à ne plus rien cacher à ceux qui s'étaient réconciliés après leur pardon, à ne pas forcer mes intimes, sans cesse inquiets à se demander « que veut-il, que ne veut-il pas ?» mais à être toujours net et franc avec eux. 15. De Maxime, j'ai appris ce que c'est que d'être maître de soi, de ne jamais rester indécis, de supporter de bon cœur toutes les épreuves, y compris les maladies, de tempérer son caractère par un mélange d'anémité et de vertu, d'exécuter sans marchander toutes les obligations qu'on a, d'inspirer à tout le monde cette conviction que, quand on parle, on dit toujours ce qu'on pense, et que, quand on agit, on a l'intention de bien faire, de ne s'étonner de rien, de ne se point troubler, de ne jamais se presser ni se laisser aller à l'indolence, de ne jamais se déconcerter dans le désespoir en s'abandonnant soi-même et en s'anéantissant, ou de ne pas reprendre trop subitement du courage et une confiance exagérée, d'être serviable et prompt à l'indulgence, en un mot, de donner de soi plutôt l'idée d'un homme qui ne change pas que celle d'un homme qui se réforme, de quelqu'un dont jamais personne n'a dû croire être dédaigné et à qui personne ne s'est jamais cru supérieur, enfin, de tâcher d'être affable pour tout le monde. 16. De mon père adoptif, j'ai appris la bonté, l'inébranlable constance dans les jugements qui ont été une fois mûris par la réflexion, le dédain pour ces hommes factices qui séduisent la vanité, la passion du travail, l'application perpétuelle, la disposition à prêter l'oreille à toutes les idées qui concernent l'intérêt public, l'invariable attention à rendre à chacun selon son mérite, le discernement à juger des occasions où l'on doit tendre les ressorts et celles où l'on peut les relâcher, la sévérité à poursuivre et à punir les amours pour les jeunes gens, le dévouement au bien de l'État, la liberté qu'il laissait à ses amis sans les astreindre nécessairement à partager tous ses repas ou à le suivre dans tous ses voyages, l'absolue égalité d'humeur où le retrouvaient au retour ceux qui avaient dû le quitter pour quelque cause urgente, la consciencieuse analyse des choses dans toutes les délibérations, la persistance à ne point se départir de son examen en se contentant des premières solutions qui se présentaient, l'attachement rempli de soins pour ses amis, aussi peu porté à se dégoûter d'eux sans raison qu'à les aimer à la fureur, l'indépendance d'esprit en toute chose et la sérénité, la prévoyance à longue vue et la vigilance à régler les moindres détails sans en faire tragiquement étalage, la précaution de repousser les acclamations populaires et la flatterie sous toutes ses formes, l'économie à ménager les ressources nécessaires à l'autorité, la retenue dans les dépenses pour les fêtes, tout prêt à offrir les critiques sur ce chapitre. La piété, sans superstition envers les dieux. La dignité avec le peuple, qui ne fatigua jamais de ses adulations ni de son empressement à complaire à la foule. La sobre mesure en toutes choses, le solide respect de toutes les convenances, sans un goût trop vif pour les nouveautés. L'usage sans faste et aussi sans façon, des choses qui rendent la vie plus douce dans les occasions où c'est le hasard qui les offre. Les prenant quand elles se trouvaient sous la main avec indifférence, et n'en ayant nul besoin si elles venaient à manquer. L'attitude de quelqu'un dont on ne peut dire ni qu'il est sophiste, ni qu'il est provincial, ni qu'il est entiché de l'école, mais d'un homme dont on dit qu'il est mûr et complet, au-dessus de la flatterie, capable d'être à la tête de ses affaires propres et des affaires des autres. Ajoutez-y encore l'estime pour les vrais philosophes, l'indulgence exempte de blâme pour les philosophes prétendus, sans d'ailleurs être jamais leurs dupes, le commerce facile, la bonne grâce sans fadeur, un soin modéré de sa personne, comme il convient quand on n'est pas trop amoureux de la vie, sans songer à rehausser ses avantages, mais aussi sans négligence, de manière à n'avoir presque jamais besoin, grâce à ce régime tout individuel, ni de médecine, ni de remèdes intérieurs ou extérieurs. La facilité extrême à s'effacer sans jalousie devant les gens qui s'étaient acquis une supériorité quelconque, soit en éloquence, soit en connaissance approfondie des lois, des mœurs et des matières de cet ordre. La condescendance qui s'associait à leurs efforts pour les faire valoir chacun dans leur domaine spécial. La fidélité en toute chose aux traditions des ancêtres, sans d'ailleurs vouloir se donner l'air d'y tenir essentiellement. Un esprit qui n'était ni mobile, ni agité, mais sachant endurer la monotonie des lieux et des choses, reprenant les occupations habituelles dès que le permettaient des maux de tête cruels, avec plus d'ardeur et de vivacité que jamais, n'ayant pas beaucoup de secrets qui lui appartinssent, et ces secrets en très petit nombre et fort rares ne concernant guère que l'État. Circonspect et très regardant dans la célébration des fêtes solennelles, dans le développement des travaux publics, dans les distributions du peuple. Et quand il les croyait nécessaires, ayant en vue ce que la convenance exigeait bien plutôt que le renom qu'il en pourrait retirer pour ce qu'il aurait fait, ne prenant jamais de bain hors des heures régulières, sans passion pour les bâtisses, ne songeant nullement à la composition de ses repas, ni à la qualité ou à la couleur de ses habits, ni à la beauté de ses gens. Ses vêtements étaient faits de la laine de l'Orium, sa petite ferme, et le plus souvent de la laine de l'Anuvium. Le manteau qu'il avait à Tusculum était d'emprunt, et toute sa façon était aussi simple. Jamais rien de dur, rien même de brusque, rien de pressé, et comme dit le proverbe, jamais jusqu'à la sueur. Mais toute chose faite avec pleine réflexion, comme à loisir, sans le moindre trouble, dans un ordre absolu, robustement, et en harmonieuse correspondance de toutes les parties. C'est bien à lui que s'applique cette louange adressée jadis à Socrate, ouvrez les guillemets, qu'il savait s'abstenir et jouir de toutes ces choses dont la plupart des hommes ne s'abstiennent qu'à contre-cœur et dont ils jouissent en s'y abandonnant avec ivresse. Fermez les guillemets. Demeurer fort dans l'une et l'autre rencontre, conserver constamment sa vigueur et sa tempérance, n'appartient qu'à l'homme qui a l'âme ferme et invincible, comme fut mon père durant la maladie de Maxime. 17. Je dois au Dieu d'avoir eu de bons aïeuls, de bons parents, une bonne sœur, de bons maîtres, des serviteurs, des proches, des amis, qui tous étaient bons également, presque sans exception. À l'égard d'aucun d'eux, je ne me suis jamais laissé aller à quelque inconvenance, bien que par disposition naturelle je fusse assez porté à commettre des fautes de ce genre, mais la clémence des dieux a voulu qu'il ne rencontrât jamais un tel concours de circonstances qui pût révéler en moi ce mauvais penchant. Grâce à eux encore, j'ai pu ne pas rester trop longtemps chez la concubine de mon grand-père. J'ai pu sauver la fleur de ma jeunesse sans me faire homme devant le moment. J'ai pu même sous ce rapport gagner un peu de temps, vivre sous la main d'un prince et d'un père qui devait déraciner en moi tout orgueil et m'amener à être convaincu qu'on peut, tout en vivant dans une cour, n'avoir nul besoin ni de garde ni de costume.